Radio Okapi.
Les informations, c'est tout de suite avec Billy Ivan Lutumba.
Ils franchissent ce 8 mai la première étape de leur épreuve d'examen d'État édition 2023. Les finalistes des humanités dissertent depuis ce matin. Dans la première partie de ce journal, nous faisons un tour d'horizon à travers le pays pour parler organisation et conditions de passation de cet examen. De la diplomatie dans son volet sécuritaire, nous en parlons avec la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à Windhoek, Kanamibi. La sécurité dans l'est du pays et la stabilité de la région, c'est autour de cette problématique que s'est réunie la Troïka de la SADC. Eleazar Kakwala, président de la Croix-Rouge dans le Maniema, est celui que nous recevons comme invité en fin de ce journal. C'est à l'occasion de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sous peu, nous entrons dans le vif de l'actualité congolaise à travers le pays. Merci de la confiance que vous nous accordez. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Épreuve hors session de l'examen d'État 2023, tout s'est bien passé dans l'ensemble pour cette première journée selon l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Modia Musungai a effectué une tournée cet avant-midi dans des centres de la partie est de Kinshasa avec la vice-ministre du secteur et le ministre de l'éducation de Kinshasa. Ici, des élèves ont été délocalisés suite au conflit Tekeyaka. Il rassure aussi sur l'organisation d'une session spéciale pour les élèves de Kalehe au sud Kivu et d'autres coins du pays qui ne peuvent pas prendre part à ces épreuves. Odia Musungai, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, s'exprime au téléphone de Babel Pongo Massimango.
C'est la dissertation, c'est la première preuve hors session de l'examen d'État. Après, nous aurons l'épreuve orale de français et puis la pratique professionnelle. Nous avons plus de 993 000 candidats. On estime à 1 million, mais il y a des cas de déperdition. Il y a des candidats qui se manifestent également aujourd'hui pour des raisons que vous n'ignorez pas. À l'est du pays, par exemple, il y a eu des déplacements. Nous acceptons ces candidats-là. À propos des Calais, il y a des rescapés qui peuvent se présenter dans n'importe quel centre de proximité. On les accepte, ils conservent leur identité scolaire et on verra au moment opportun ce qu'on peut faire. Mais ceux qui n'ont pas la chance de participer aujourd'hui, ils pourront présenter à une session spéciale. Sur l'ensemble du pays, ça se passe bien. À l'heure qu'il est, j'ai pas encore eu une observation contraire ou négative. Une avancée très significative. Dans l'ensemble, il y a plus ou moins 41% des filles. C'est la première fois. À partir de Kinshasa, je suis au plateau. Nous venons de terminer Bibwa, on continue Maluku, ainsi de suite. Tout se passe bien.
Comme dit, c'est un tour que nous allons effectuer à travers le pays. Dans le Nord Kivu, lancement ce lundi à Goma de l'épreuve hors session des dissertations pour la session des examens d'État édition 2022-2023. La province éducationnelle Nord Kivu 1 note une déperdition de plus de 6000 candidats pour cette session d'examen par rapport à l'année dernière. Les responsables de l'éducation attribuent cette diminution d'élèves finalistes à la guerre du M23 qui affecte trois territoires, à savoir Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Une autre spécificité pour la province éducationnelle Nord Kivu 1, c'est la délocalisation des quelques centres d'examen, comme le dit Gabriel Omenya dans son reportage.
Pour permettre aux élèves finalistes qui ont fui les zones de combat dans ces territoires, quatre centres ont été délocalisés et répartis de la manière suivante. Un centre a été ouvert à l'Institut technique Nzigoma Itige dans la commune de Goma. Deux autres, dont un à Bushagara dans le territoire de Nyiragongo et un autre à Sake dans le territoire de Masisi. Cet élève déplacé, qui n'a pas voulu que son nom ni son institut soit cité, ne cache pas sa satisfaction juste à la sortie de la salle d'examen.
Tout s'est bien passé, on s'est plaint pas. Ouais, personnellement, j'ai développé un sujet qui dit qu'un homme sans science est comparativement dû à un homme sans une gâchette.
Avant l'ouverture de la malle contenant le preuve, le vice-gouverneur s'est dit inquiet du taux record de la déperdition des candidats pour cette année. Le commissaire divisionnaire Ekoukali Popo.
Cette année-ci, nous présentons 16 000, tandis que l'année dernière, c'était 22 000. Donc, il y a une déperdition de 6 000.
Par ailleurs, l'autorité provinciale ainsi que les responsables de l'éducation, notamment les Proved et l'IPP, sont restés vagues quant à la question questions posées par les journalistes sur le sort des candidats dont les centres se trouvent dans les zones contrôlées encore par le gouvernement, mais dont les territoires sont sous occupation de la rébellion. Cependant, les sources concordantes dans les territoires de Rutshuru confirment que les mâles n'ont pas pu être acheminés dans ces entités par crainte de l'environnement sécuritaire qui ne rassure pas. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
En Ituri, environ 200 élèves finalistes du secondaire affectés par les récentes attaques des groupes armés dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi ont passé ce lundi les épreuves préliminaires de l'examen d'état dans les centres qui ont été délocalisés dans leur milieu. Le responsable provincial de l'éducation déplore cependant certains incidents, notamment la mort des deux élèves finalistes lors d'une attaque à Makoumo dans le territoire de Mambasa la semaine dernière. Il regrette également le déplacement des centaines d'autres élèves à la suite des règlements de compte entre deux milices rivales dont l'une est engagée dans le processus de paix. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Dans la province éducationnelle Ituri 1 notamment, qui regorge les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa, des incidents sécuritaires perpétrés par des groupes armés ont affecté de nombreux élèves. Deux finalistes de l'Institut Mapimbi de Mambasa ont perdu la vie la semaine dernière au cours de l'incursion des rebelles des ADEF. Une situation qui a poussé des centaines d'élèves de 26 écoles de Bela et Makoumo à se diriger vers Mangina et Beni au Nord Kivu pour passer ces épreuves, indique Jean-Jacques Masumbuko, inspecteur principal provincial de l'éducation. Dans le territoire de Djougou, un centre d'examen d'État a été installé à Kobu pour accueillir environ 170 candidats gérés par la subdivision des Nizi. Ils ont été contraints de passer les examens à Bunia à cause du dernier incident sur les tronçons Mwanga, Lipri, Nyangaraï entre les miliciens de la Codeco et ceux du FPIC. Par contre, dans la province éducationnelle de l'Ituri 2, 12 centres d'examen sont prévus à Mahagi où des combats se poursuivent entre les miliciens de Codeco et Zaïre. Certains vont passer leurs examens à Aru mais aussi dans un centre installé en Ouganda. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci bien Ezekiel Mouzalia. Dans la province du Maniema, la passation avec ces deux provinces éducationnelles, Maniema 1 et 2, a inscrit cette année 24 250 candidats qui sont répartis dans 78 centres de passation, dont 27 à Kindu. C'est le gouverneur intérimaire Fanny Idrissa Mangala qui a lancé ses épreuves à l'école primaire Mikelenge. Florence Kizalunga.
Tout a commencé par les mots d'encouragement de l'autorité provinciale appelant le finaliste à un travail bien fait. Afani Idrissa.
Chers finalistes, je pense cette étape que vous venez de franchir, c'est une étape très importante pour le couronnement de votre vie. Prenez ça avec toute considération possible et détermination. Et donc, la réussite est toujours personnelle. Ne comptez pas sur un voisin. Si vous comptez sur un voisin, c'est le début de votre échec. Je souhaite bonne chance à tout le monde, plein succès à ces épreuves de l'examen d'État 2023.
Dans la province éducationnelle Maniema 1, IPP déplore les faibles taux de participation des filles. Godelive Mwinda.
Quant aux statistiques, la province éducationnelle de Maniema 1 a enregistré pour l'examen d'État de cette année 15 050 candidats, dont 10 034 garçons et 5016 filles seulement, ce qui nous interpelle tous quant à la scolarité des filles dans notre province.
Signalons que le candidat le plus jeune à ces épreuves est de 2006 et le plus âgé, c'est un autodidacte de 1960. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et la province du Kasaï oriental, quant à elle, a présenté à ses épreuves au total 23 592 candidats, dont 8124 filles et 62 centres sont retenus. Les épreuves traditionnelles pour les écoles professionnelles et l'examen oral sont prévues à partir de demain mardi. Signalons qu'après le lancement par le gouverneur de province à l'épée du 4 janvier dans la commune de Djoulou, le gouverneur a fait le tour des quelques centres pour se rendre compte du bon déroulement de ces épreuves. Kalemi, une motion de défiance contre la gouverneure du Tanganyika vient d'être introduite par l'auteur de la question orale avec débat adressé à l'autorité provinciale. Le député Kakuji Wama a changé sa question orale en motion de défiance au motif que la gouverneure n'est pas venue répondre à sa question orale sur la gestion de la province. La plénière est suspendue et va prendre dans une trentaine de minutes pour établir sur la motion de défiance contre la gouverneure du Tanganyika. Deuxième titre de ce journal débute ce lundi à Windhoek, en Namibie, de la Troïka, de la communauté des États de l'Afrique australe, la SADC. Ce sommet réunit les pays membres de la Troïka et l'organe de sécurité de la SADC, ainsi que les pays contributeurs des troupes dans la brigade d'intervention de la MONUSCO. La crise sécuritaire en RDC et l'intervention militaire de la SADC dans la résolution de cette crise sera au cœur des discussions. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier dimanche dans la soirée en Namibie, pour prendre part à ce sommet extraordinaire de l'organe de politique, défense et sécurité de la SADC. Les détails avec Michel Kifindangoy.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le rôle de la SADC dans l'appui à apporter à la RDC seront au cœur du débat au cours de ce sommet qui s'ouvre ce lundi à Windhoek en Namibie, affirme une source de la présidence. Prendront part aux discussions aux côtés de Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC, ses homologues de la Namibie et de la Zambie, membres de la Troïka, ainsi que ceux d'Afrique du Sud et de la Tanzanie, pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention. Cette réunion devra aboutir à une déclaration allant dans le sens de jeter le fondement de la paix et de la stabilité en RDC, conformément à la mission de la Troïka de la SADC. Ensuite, des conclusions du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu le 17 août dernier à Kinshasa, les dirigeants de la région étudieront la possibilité à matérialiser leur solidarité à la RDC, notamment dans la réactivation et le renforcement de la brigade d'intervention, afin de combattre le M23 comme ce fut le cas en 2013.
Merci Michel Kifindangoy pour ces détails de la visite du président à Windhoek en Namibie. À Ituri, des soldats des FRDC organisent depuis le week-end dernier des patrouilles motorisées sur l'axe Iga Barrière Kilo dans le territoire des Djougou où le trafic a été interrompu pendant près de 2 mois. L'armée espère ainsi garantir la sécurité des nombreux habitants dont des opérateurs économiques qui ne pouvaient plus emprunter ce tronçon à cause des exactions des hommes armés. Depuis la mise en place de ces opérations, certains véhicules qui étaient bloqués ont pu acheminer des produits de première nécessité dans plusieurs centres de négoce dans cette entité. Des acteurs de la société civile saluent cette initiative de l'armée et plaident pour la réouverture officielle du trafic pour permettre à la population de circuler librement. Le point avec Jean-Claude Lekidile.
C'est le samedi 7 mai que le premier convoi composé d'une dizaine de voitures et camions transportant des passagers et diverses marchandises est arrivé au centre commercial de Kilueta, situé à environ 60 km de Bounia. Après près de 50 jours d'interruption de trafic sur cette route à cause de l'insécurité, les populations de la localité peuvent souffler. Jean-Robert Bassiloko, le responsable de la société civile de Bounia de Kilo, déclare que les prix de certains produits ont baissé. Il félicite les soldats des FADC qui ont escorté ces véhicules de Bounia jusqu'à Kilo en passant par Bambou et Kobou où des opérateurs économiques ne pouvaient pas fréquenter ces centres de négoce à cause de la présence le long de la route des hommes en armes. Jean-Robert Bassiloko.
Pour le moment, comme ça faisait déjà un mois et quelques là, comme il a fait ce geste-là pour soulager la population, ça nous avons apprécié. Mais ce n'est pas le tout. Le mieux serait d'imposer la sécurité sur les tronçons pour que les transporteurs soient libres pour toujours comme d'habitude là.
Signalons qu'une délégation de la MONUSCO s'est rendue le vendredi dernier dans ces entités en vue d'étudier les mécanismes de renforcement de sécurité et faciliter les trafics des personnes et de leurs biens sur ces tronçons. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Autre nouvelle, dans la province de la Tshopo, l'inondation a causé d'énormes dégâts matériels en aval du fleuve Congo à partir de Kisangani, notamment dans le territoire d'Isangi. Beaucoup d'habitations et des champs ont été détruits. Les populations sont sinistrées. C'est ce qui pousse l'évêque du diocèse d'Isangi à plaider leur cause auprès du gouvernement afin qu'il leur apporte une assistance en vivre et non vivre. Monseigneur Dieudonné Madrapile, dans cet extrait choisi par Jacques Mkongole.
La population du Sangui attend voir leurs dirigeants, tant au niveau provincial que national, être actifs, présents et prendre vraiment à cœur leur situation actuelle. Ainsi donc, j'attaque concrètement de ce qui suit. De façon urgente, une assistance humanitaire conséquente. Les produits alimentaires comme les riz, la farine de maïs ou de manioc, les haricots, du sel, du sucre, de l'huile, plus les bâches. En faisant les tours, nous avons écouté beaucoup de gens se plaindre, nous n'avons pas de bâches, nous manquons de bâches, il nous faut des bâches et des tentes pour l'écapement des sinistres. Le purifiant d'eau, le produit pharmaceutique indiqué pour prévenir les maladies et les épidémies. Réprégner les couvertures, les vases, les seaux plastiques, sans oublier d'autres biens, comme nous l'avons souligné plus haut, susceptibles d'aider et de les sinistrer.
En plus bref, avant de passer à la page internationale, 5 personnes sont mortes foudroyées. Le drame s'est passé hier soir à Loufou frontière dans le territoire de Songololo sous une pluie. L'administrateur du territoire qui les confirme indique que 2 d'entre eux sont identifiés comme membres d'une même famille, l'une âgée de 22 ans et l'autre de 11 ans. Cet incident a eu lieu dans un hangar construit en plein air où les 5 victimes, tous commerçants, ambulances, étaient abritées. Ces corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Imé de Kimpese après le constat des magistrats.
Actualité internationale.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a déclaré dimanche qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans garantie pour sa sécurité la veille d'un procès en appel dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Monsieur Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, a invoqué les incidents auxquels ont donné lieu ses déplacements au tribunal. Autre nouvelle, une 20aine d'associations maliennes ont annoncé samedi s'unir pour obtenir de la junte au pouvoir le retrait du principe de laïcité de l'État dans le projet de constitution soumis au référendum le 18 juin. Ces associations religieuses, culturelles et politiques ont pressé le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, de lancer des consultations en vue d'un tel retrait, faute de quoi elles feront campagne pour le non, disent-elles dans une déclaration émise au lendemain de l'annonce de la tenue du référendum le 18 juin.
L'invité.
Comme dit notre invité est pasteur Eleazar Kakuala, président provincial de la Croix-Rouge Maniema. En marge de la célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 8 mai, il nous parle de l'apport de la Croix-Rouge Maniema à la communauté. Pasteur Eleazar Kakuala s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Eleazar Kakuala, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
On célèbre la journée de la Croix-Rouge et des Croissants Rouges. Quel est l'apport de la Croix-Rouge à la communauté du Maniema?
Notre apport, c'est d'abord l'action humanitaire, c'est-à-dire que nous sommes disponibles à rendre service en faveur des vulnérables par rapport à différentes catastrophes, que ce soit naturelles ou anthropiques, nous sommes disposés. Mais aussi, nous sommes disposés à former les volontaires, tous ceux-là qui voudraient avoir des connaissances sur les volontariats, rendre service à la communauté, nous sommes disposés à les former.
Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans la province comme service?
Ce que nous faisons dans la province comme service, il y a des activités que nous faisons, notamment par exemple dans le territoire de Kabambare où il y a des tensions. Là, nous sommes en train de faire les premiers secours. Nous sommes en train d'évacuer ceux qui sont blessés quand il y a des échauffourées vers les structures de soins. Nous avons une moto-ambulance et c'est la première dans le monde. C'est une expérience qu'on fait dans les Maniema aussi. Sud. Mais aussi, quand il y a des inondations, nous venons à secourir les personnes sinistrées. Ça, ce sont des activités que nous menons, mais aussi des activités de routine comme le renforcement des nombres de volontaires par la formation, des premiers secours à base communautaire, niveau 1, niveau 2, nous sommes disponibles à pouvoir les faire.
À cette nouvelle année, qu'est-ce que Croix-Rouge prévoit faire encore dans la province du Maniema?
Nous allons, cette année nouvelle, continuer avec ce que nous avons commencé, c'est-à-dire continuer à implémenter les projets de moto-ambulance dans le sud, mais aussi faire des évaluations pour d'éventuels projets de relèvement communautaire dans le sud de Maniema.
Pensez-vous que le travail de la Croix-Rouge mérite l'accompagnement des autorités et même de la population?
Tout à fait. Le gouvernement doit nous accompagner parce que par nature, nous sommes société de secours volontaire auxiliaire des pouvoirs publics. Nous sommes en train de travailler avec l'État dans l'auxiliarité, c'est-à-dire nous aidons l'État dans l'action humanitaire. Nous sommes la première institution humanitaire du pays avec des créloirs présidentiels qui doit aider le gouvernement quand il y a des situations humanitaires dégradantes. Mais aussi nous attendons que le gouvernement nous appuie parce que il faut aider la Croix-Rouge à aider. Donc l'appui du gouvernement est d'autant plus important par rapport à nos activités des terres. Mais aussi à la communauté, c'est la confiance, parce que cette communauté devra accepter notre action. Et d'ailleurs, pour les Maniema, la Croix-Rouge est acceptée par la population.
Pour ceux qui veulent intégrer cette structure, y a-t-il des conditions préalables?
Ah, tout à fait. On vient s'adhérer, on paie un petit quelque chose pour acheter sa carte. C'est en même temps le prix de l'adhésion. C'est vraiment dérisoire, de manière à ce que l'on puisse être disponible à rendre service à la communauté. Mais aussi, je voulais rappeler que à l'honneur de cette journée internationale de la Croix-Rouge et des Croissants Rouges, nous avons pour thème, nous faisons notre travail par les cœurs. Ça veut dire que c'est l'amour du prochain. Notre action humanitaire a commencé par l'amour du prochain. Henri Dunant allait rencontrer Napoléon, c'était pour ses activités en Afrique, ses affaires, mais arrivé là-bas, il a trouvé qu'ils étaient en guerre. Il y avait 16 000 personnes et des blessés et des morts qui ne pouvaient pas avoir des soins. Il s'est improvisé en volontaire, c'est les cœurs.
En ce moment où on célèbre la journée de la Croix-Rouge et les Croissants Rouges, que peut être votre appel à toute la communauté?
Notre appel à toute la communauté, c'est qu'elle puisse adhérer à notre action. Et d'ailleurs, il y a des activités, je pense que vous allez me poser cette question, les activités qui sont prévues pour la semaine Croix-Rouge qui a commencé depuis le 1er mai jusqu'au 7 et au 8, nous allons faire la fête proprement dite. Mais pendant cette période, nous faisons des activités d'assainissement dans trois structures de soins, l'hôpital général de référence, l'hôpital de référence d'Alungouli, mais aussi les centres de santé Mikelenge. En plus de cela, nous allons distribuer des vivres aux orphelins de complexes scolaires d'Indor, mais aussi aux veuves des différentes coordinations pendant cette période jusqu'au 8.
Et sur terrain, est-ce que vous n'exigez pas de frais avant de rendre un service?
Ah non, on ne peut pas exiger des frais. Nous travaillons de manière désintéressée pour rendre service aux plus vulnérables. Pour nous, nous avons le cinquième principe qui parle du volontariat. Ce qui satisfait les volontaires, c'est le service qu'il rend. Donc, on n'exige pas de salaire à contrepartie.
Monsieur Eliezer Kakwala, merci.
C'est moi qui vous remercie.
À vous fidèles auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Élisée Chikota, Martin Sebou-Jangwe, Alain Goy assuré la prise de soins et la mise en onde, Billy Van Lutumba vous l'a présenté.